Radio France Internationale, bienvenue. Il est 20h en temps universel, 21h à Paris, 23h à Damas.
Mathis Limano.
La Syrie où les combattants kurdes ne peuvent être tolérés, les propos du chef de la diplomatie turque lors d'un entretien téléphonique aujourd'hui avec son homologue américain. À Damas, la capitale, on continue de célébrer la liberté retrouvée 3 semaines après la chute de Bachar el-Assad. Reportage à suivre sur la place devenue symbole de la révolution, la place des Omeyyades. Le gaz russe également à la une. Il ne transitera plus par l'Ukraine à partir du 31 décembre, c'est mardi prochain. Décision de Volodymyr Zelensky qui irrite les pays européens dépendants du gaz russe. Et puis aux États-Unis, TikTok en sursis. Le réseau social chinois risque d'être interdit par la Cour suprême, mais Donald Trump tente de voler à son secours. Elles sont devenues le symbole de la liberté, de la démocratie dans de nombreux pays arabes. Ces places, devenues célèbres, notamment pendant le printemps arabe débuté en 2010, à l'instar de la place Tahrir au Caire en Égypte, eh bien les Syriens possèdent désormais leur symbole de révolution et de libération. Ils résident dans la place des Omeyyades, l'un des monuments les plus emblématiques de la capitale Damas. Notre correspondant Mohamed Erami y est allé et depuis la chute de la dictature Assad, elle ne désemplit pas.
Depuis la chute de Bachar al-Assad, la place des Omeyyades est pleine de Syriens. Sao Sen, 20 ans, y vient tous les jours pour danser et célébrer la fin du régime. Abir El y participe pour demander justice contre le dictateur déchu et de meilleures conditions économiques.
La place des Omeyyades était un symbole de la liberté et nous a été volée depuis longtemps. Et là, elle nous est revenue et va redevenir ce symbole.
Depuis 2011, on voulait organiser une marche avec 1 million de personnes, mais on n'a jamais pu. Mais maintenant que Bachar est parti, je dis à tous les Syriens à l'intérieur et à l'étranger, revenez qu'on puisse organiser ce moment avec 1 million de personnes.
Dans la place et ses alentours, des dizaines d'hommes armés, barbus, cheveux longs, visages masqués, ils appartiennent à la nouvelle administration syrienne. Leur chef, Abou Mohammed el-Souni, explique qu'il protège les Syriens présents.
Notre mission est de préserver les institutions gouvernementales et d'empêcher toute atteinte à celles-ci. Et arrêter également les voleurs et poursuivre les officiels de Bachar al-Assad et les voyous.
Sous la famille Assad, la place était interdite au rassemblement. Cette zone stratégique est entourée de sièges sécuritaires et des services de renseignement. Mohamed Erami, Damas, RFI.
La Syrie où les combattants kurdes ne peuvent être tolérés, c'est ce qu'a rappelé le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan à son homologue américain Anthony Blinken. Les deux hommes se sont entretenus aujourd'hui par téléphone. Par ailleurs, le fondateur du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, a reçu de la visite aujourd'hui. Abdullah Öcalan, emprisonné à vie sur une île au large d'Istanbul. Une délégation du parti turc pro-kurde DEM s'est entretenue avec lui après avoir obtenu le feu vert du gouvernement. La dernière visite du parti, qui s'appelait à l'époque le HDP, c'était en 2015. Plus que 3 jours avant que l'Ukraine coupe le robinet du gaz russe qui traverse son territoire, Volodymyr Zelensky refuse de renouveler en 2025 le contrat entre son pays et le fournisseur russe Gazprom, du gaz dont profitent la Hongrie et la Slovaquie, proches de Moscou. Budapest et Bratislava accentuent donc la pression sur l'Ukraine, tandis que la Moldavie, également dépendante, se démène pour trouver des alternatives. Les explications de Claire Fage.
La Hongrie, même si elle reçoit désormais presque tout son gaz russe par un autre chemin, le gazoduc Nord Stream à travers la mer Noire, ne veut pas renoncer au dernier mètre cube russe qui passe par l'Ukraine. Son premier ministre Viktor Orban proclame que Kiev enfreindrait l'accord de libre-échange avec l'UE en refusant de livrer du gaz acheté en Russie par la Hongrie, car selon lui, cela deviendrait du gaz hongrois. De son côté, la Slovaquie, toujours en contrat de long terme avec Gazprom, s'active particulièrement depuis quelques jours. Le premier ministre Robert Fico s'est rendu à Moscou après une altercation avec le président ukrainien. Il a refusé que Kiev lui livre du gaz non russe et a menacé de stopper les exportations slovaques d'électricité à l'Ukraine. En sous-main, des négociations sont en cours pour que l'Azerbaïdjan se substitue à la Russie et livre à ces deux pays européens alliés de Moscou l'équivalent des volumes de gaz russe que Gazprom ne pourra plus livrer via l'Ukraine. En revanche, la Moldavie, encore dépendante à 70% du transit ukrainien de gaz russe mais candidate à l'Union européenne, dénonce l'abandon par Gazprom Gazprom de ses obligations contractuelles et cherche à importer depuis la Roumanie du gaz qui lui coûtera beaucoup plus cher.
La Slovaquie qui n'accueillera pas de négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. Bratislava en avait fait la proposition, jugée acceptable par Vladimir Poutine, mais refus catégorique de Volodymyr Zelensky qui dénonce cette tentative de médiation. La Slovaquie a reçu l'ordre de Vladimir Poutine d'ouvrir un deuxième front énergétique, a-t-il dénoncé sur X. Enfin, à 3 jours de l'échéance qui doit mettre fin au transit du gaz russe par l'Ukraine, le pays a reçu hier sa première cargaison de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis, information révélée par le Financial Times. C'est dans ce contexte que l'enquête avance après le crash mercredi d'un avion de ligne pour le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. L'appareil a subi des interférences physiques externes. Il s'est entretenu avec Vladimir Poutine aujourd'hui, qui s'est excusé sans reconnaître la responsabilité de la Russie, mais a évoqué des tirs de la défense antiaérienne au moment où l'avion survolait l'espace aérien russe. L'Union européenne appelle, elle, à une enquête rapide et indépendante. L'avion qui relie Bakou à Grozny en Tchétchénie s'est écrasé au Kazakhstan, tuant 38 personnes sur les 67 passagers et membres d'équipage. On va en Corée du Sud dans ce journal international. Le Premier ministre et président par intérim, Han Duck-soo, destitué hier par l'Assemblée nationale. Un vote boycotté par le parti présidentiel, mais qui n'a pas empêché la motion de destitution d'être adoptée à l'unanimité. Camille Ruiz, vous êtes notre correspondante à Séoul. Un président par intérim destitué, c'est une première dans le pays.
Sans surprise, c'est sur ces événements inédits que titrent les journaux de la presse nationale. Dans son éditorial, Jongang Ilbo critique vivement la décision du Premier ministre déchu. Sa décision de refuser de nommer rapidement 3 juges à la Cour constitutionnelle pour combler les sièges vacants. C'était une des conditions du principal parti d'opposition, le Parti démocrate, sans quoi celui-ci avait prévenu. Il déposerait une motion de destitution. Celle-ci est donc passée hier à l'unanimité des bulletins exprimés. Après ce vote historique, le quotidien Joseon s'inquiète de la situation économique de la Corée du Sud. L'économie sud-coréenne, je cite, « encore fragilisée par les conséquences de la loi martiale, commence tout juste à montrer des signes de reprise. La confiance et l'engagement des alliés de la Corée ont été essentiels pour stabiliser l'économie, mais la situation reste précaire », alerte le journal. Après l'annonce de la loi martiale, le 3 décembre, le won a dégringolé. Il est actuellement à son plus bas niveau depuis 15 ans. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
Et on l'a appris aujourd'hui, le président Yoon Suk-yeol, destitué au début du mois, avait autorisé l'armée à ouvrir le feu dans le Parlement. Le bâtiment était alors assiégé par l'armée. Les députés réfugiaient en urgence à l'intérieur pour tenter de contrer la tentative de l'ex-président d'imposer la loi martiale. La prison à vie en Turquie pour 3 suspects. Ils ont été reconnus coupables de la mort d'une fillette de 8 ans. Le corps de Narin Guran a été retrouvé en septembre, 19 jours après sa disparition dans la province de Diyarbakir. Un drame qui avait suscité l'émotion en Turquie. TikTok vit-il ces derniers jours aux États-Unis ? La Cour suprême menace de suspendre le réseau social chinois si la maison mère ne le revend pas avant le 19 janvier, une date butoir qui intervient à la veille de l'investiture de Donald Trump. Le président élu a justement demandé à la Cour suprême de suspendre une loi qui interdirait TikTok. En fait, Achim Lippold, Donald Trump semble vouloir gagner du temps pour gérer le dossier lui-même.
Dans une lettre adressée au juge de la Cour suprême, les avocats de Donald Trump précisent que leur client ne prend pas position sur le fond du dossier. Ils cherchent avant tout à éviter la fermeture de TikTok qui revendique 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Les avocats mettent en avant l'expérience de Donald Trump en tant que négociateur. Selon eux, le président élu sera le mieux placé pour trouver un compromis qui répond aux inquiétudes sur la sécurité nationale tout en sauvant l'application. En avril dernier, le Congrès a massivement voté une loi qui oblige la maison mère de TikTok, ByteDance, à vendre ses activités américaines avant le 19 janvier, sous peine d'interdiction. Comme le Congrès, l'administration Biden veut prévenir les risques d'espionnage et craint que le gouvernement chinois n'accède aux données des utilisateurs de la plateforme. TikTok dénonce de son côté une attaque contre la liberté d'expression. Ironie de l'histoire, lorsque Donald Trump était à la Maison-Blanche, il avait tenté d'interdire l'application. Aujourd'hui, le président élu en reconnaît l'utilité et y voit une alternative aux géants comme Facebook qu'il avait banni après l'assaut du Capitole en janvier 2021.
Achim Lippold, service international. Vous êtes bien sur RFI. L'information revient dans moins d'une heure sur la Radio du Monde.